Bonjour. Vous écoutez Musique en mémoire et c'est en compagnie du duc de Saint-Simon que nous passons cette semaine avec lui à Chambord. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Musique en mémoire en nouvelle diffusion.
Jean-Luc Rider.
Nous sommes dans la cour du château de Chambord, Alexandra Fleury. C'est votre lieu, votre deuxième maison un peu depuis très longtemps.
Oui, effectivement, deuxième maison, c'est tout à fait ce qui convient. Ça fait 14 ans que je travaille ici, donc effectivement depuis un petit peu, mon longtemps maintenant.
Alors je me réjouis de faire la visite avec vous.
Merci, allons-y.
La visite de Chambord est un moment important dans la vie de tout être humain, pour tous ceux qui ont la chance de le faire un jour. Alors, en compagnie d'Alexandra, David Mestri. Bonjour David.
Bonjour Jean-Luc, Alexandra Fleury, qui est une des déléguées culturelles du château, qui a invité Olivier Beaumont pour une résidence en l'an 2014. Donc lui a eu la chance de passer 3 mois dans ce lieu magique. Et nous allons le visiter aujourd'hui avec donc Alexandra Fleury, avant de retrouver Olivier Beaumont pour nous parler de Saint-Simon.
Saint-Simon à Chambord, Saint-Simon est la musique, mais auparavant cette visite en votre compagnie, David, en compagnie d'Alexandra. Quand on arrive à Chambord, quand on entre de Chambord, la pièce la plus majestueuse qui frappe dès l'entrée, c'est l'immense escalier.
Grand escalier blanc en double hélice, qui est une des signatures du château.
Avec d'autres, mais celle-ci est probablement à la fois la plus impressionnante et la plus connue, puisque c'est un peu le, on va dire, le chef d'orchestre de ce bâtiment, puisque tout tourne autour de lui. Tout a été conçu par rapport à lui. La largeur des pièces que nous sommes en train d'emprunter, la hauteur sous plafond, sont complètement fonction du système qui est là, en plein milieu, un peu la colonne vertébrale, finalement, du bâtiment.
Mais donc on construit autour d'un escalier qui est pourtant, en principe, justement, plutôt fonctionnel. Ça avait une importance symbolique.
Alors oui, quand on regarde à la fois ses dimensions, parce qu'il est quand même outrageusement large par rapport à un escalier classique, il fait 9 mètres de diamètre, le fait qu'il y ait une double volée de marche à l'intérieur. L'autre aspect aussi qui le caractérise, c'est le fait qu'il soit à ce point ajouré, puisque dans les pièces voisines, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Les gens qui sont dedans voient ceux qui sont autour, et on peut également se voir d'un escalier à l'autre. Donc finalement, voir et être vue semble être l'essentiel des fonctions de cet escalier. C'est une espèce de théâtre à part entière, finalement. Tout le drame de Chambord, on ne connaît ni l'architecte de façon certaine, même si on a des hypothèses, et on ne sait pas exactement qui est venu avec François Ier lors des rares séjours qu'il a effectués ici, puisque la construction évidemment a concerné l'essentiel de son règne, donc il n'a pas pu en profiter pleinement. Mais si on se fie à d'autres sources concernant d'autres voyages royaux, dans d'autres résidences achevées, on sait qu'il y avait jusqu'à 10 000 personnes qui pouvaient constituer le cortège royal, donc une ville en mouvement. Et ça concernait autant de gens parce que finalement, chacun des invités du souverain venait avec toute sa famille, tous ses serviteurs et probablement des amis également. Donc tout de suite, ça devient complètement exponentiel.
Donc il peut être complètement vide ou alors devenir une sorte de ville à lui tout seul.
Oui, une ruche même peut-être, puisqu'on a des appartements jusque dans les combles, donc jusqu'au tout dernier étage, alors qu'a priori ce n'est pas des endroits que l'on estime toujours très gracieux à donner à ses invités, mais finalement Chambord est trop petit par rapport aux besoins que l'on en avait et on est persuadé qu'à l'extérieur du château, quand toute cette colonnes d'individus arrivaient. Une bonne partie étaient domiciliés dehors ou essayaient d'utiliser les habitations que les habitants voisins voulaient bien leur céder, moyennant quelques sous.
On avait le droit de camper sur le...
Très probablement à cette époque, et ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et la vie d'un château au temps des rois de France, c'est une grande partie de l'année quelque chose de complètement vide. C'est un endroit, c'est une sorte de résidence secondaire où l'on vient de temps en temps.
Exactement. En tout cas, en ce qui concerne le XVIe siècle, c'est beaucoup ça, puisque les rois ont une multitude de châteaux, quelques dizaines, puisque bien sûr, ils se les transmettent de l'un à l'autre. Chacun en rajoute quelques-uns. Donc, le parc, entre guillemets, s'agrandit. Et ils y viennent en fonction des moments de plaisir qu'ils vont pouvoir y avoir. Et en ce qui concerne Chambord, la chasse n'est pas très éloignée des motivations. Et les meilleures périodes de chasse ne sont pas vraiment en plein mois de juillet ou plein mois d'août. Donc ça veut dire qu'on vient surtout là l'hiver et au tout début du printemps, quand il fait le plus froid, et que les conditions d'habitation sont vraiment très rudes ici.
Oui, j'imagine, les espaces sont gigantesques. Là, on est dans ce grand escalier que vous décriviez, Alexandra Fleury. Et l'hiver, il y avait quelques cheminées. On a vu aussi, ça c'est plus tardif, je crois, j'ai vu tout à l'heure un superbe poêle en faïence de l'époque du... maréchal de Saxe, c'est bien ça?
Exactement, le poêle fait partie des petites améliorations, pour ne pas dire des conforts apportés par les occupants du XVIIIe siècle. Et ils ont eu bien raison, puisque quand on voit les hauteurs sous plafond et ces immenses pièces tout autour de nous, avec certes une cheminée par mur, mais tout de même des surfaces énormes à couvrir, on se doute bien qu'il devait faire très très frais lorsque la cour prenait possession des lieux. On a 282 cheminées, mais je ne pense pas que ça ait suffi à alimenter... le confort de chacun.
C'est difficile à mesurer, j'imagine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a même des courants d'air en mois de septembre ensoleillés oui. À l'intérieur. Ici, on est en face d'une ces cheminées monumentales comme il y en a dans tous les châteaux anciens. Lorsqu'on met des troncs, il ne faut pas parler de bûches, à chauffer là-dedans, on arrive vraiment à avoir une température agréable dans la pièce. Il faut tout le monde devait se serrer autour de l'âtre.
Mais il faut dire qu'en journée, un château comme celui-ci était assez peu occupé, puisque la chasse occupait l'essentiel du temps. Donc finalement, le gros de la troupe rentre après la chasse. Et finalement, ce sera pour danser ou pour écouter des lectures, donc être de toute façon très près de la cheminée. Et on ne se couchait pas excessivement tard non plus, de façon à pouvoir profiter de la chaleur quand elle est encore assez intéressante. Et au bout de 3-4 jours, on plie bagage, on enlève tout ce que l'on a apporté, tout le mobilier, les tentures qui sont sur les murs, les coffres, les livres, les vêtements, tout repart. Et le château reste complètement vide.
Réjouissance des chasseurs. Thank you.
Vous avez parlé de la danse, Alexandra Fleury, c'est une des activités les plus importantes dans l'activité de courtisan et dans l'apprentissage des rois. Ici, il y a des salles de bal, où tous ces grands espaces qu'on voit, c'était destiné à entendre de la musique et danser sur ça.
Exactement. Les pièces que nous avons autour de nous, qui se reproduisent à l'identique à chaque étage, qui forment une sorte de croix grecque, dont les quatre bras sont de même longueur, étaient autant d'espaces de fête. Donc on peut imaginer aujourd'hui ce que l'on a reconstitué de temps à autre avec un bal Renaissance les années passées, toutes ces dames de la cour et leurs galants en train de virevolter autour de l'escalier. Donc on parlait de chef d'orchestre tout à l'heure, c'est un peu ça, et au gré des musiques de l'époque. Et finalement, ça fait quelques beaux espaces parce qu'on a à chaque fois 200 mètres carrés multipliés par 4 au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième étage, rien que pour danser et s'amuser.
Et au contraire des jeux de cartes et autres lectures, Alexandra Fleury, la danse permet de se réchauffer aussi dans ces soirées d'hiver.
Exactement.
Ou journées.
Tout à fait. Avec la chasse qui fait qu'à cheval, bien évidemment, on a plutôt chaud. Ensuite, on enchaîne en dansant. Normalement, on peut supporter Chambord dans ces conditions, même en plein mois de janvier.
Donc c'était un peu une résidence de sport d'hiver, on pourrait presque dire.
Presque, effectivement.
On va monter au deuxième étage maintenant. Donc là, c'est une des parties principales qu'on quitte. Enfin, chaque étage est dédié à différentes époques.
Alors, le rez-de-chaussée n'est pas vraiment marqué par une époque en particulier, puisque ce sont avant tout des espaces qui sont dédiés à la location, aux événements en tout genre. Donc, ils ont un décor, on va dire, un peu typique des années fastes que Chambord a connues, mais sans effort de restitution spécifique. En revanche, au premier étage, on va du 16e au 19e siècle, à travers les règnes les plus importants ou les personnages les plus importants que Chambord ait connus. Et pour les périodes qui sont concernées par des inventaires, on a le souci, c'est le cas pour le 18e siècle et le poêle dont nous parlions tout à l'heure, on a le souci de retrouver les objets qui sont passés par Chambord, ou si ce n'est pas l'objet précis, celui de la même famille qui a été fabriqué par le même artisan et qui a toute sa place aujourd'hui.
Alors voyons quelques-uns de ces objets peut-être à l'étage suivant, il nous reste quelques marches.
Voilà.
Voilà cette croix grecque que vous décriviez tout à l'heure, donc où on peut s'imaginer danser.
Exactement, et sur ce bras de croix en particulier, ce que l'on peut imaginer est encore plus précis, puisque c'est ici que Louis XIV a fait jouer pour la première fois Monsieur de Pourceaugnac et ensuite le bourgeois gentilhomme. Ces deux moments vraiment importants ont vu le jour à Chambord. Lully et Molière étaient là, et Lully jouait lui-même d'ailleurs du clavecin.
C'est lui qui est portraituré là-bas sur ce
Exactement.
Buste. Et on voit celui de Jean-Baptiste Poquelin aussi.
Oui, oui, oui.
Donc dans cette salle, la première fois, on entend Monsieur Jourdain apprendre à danser.
Exactement.
Et à faire de la prose.
Et ça n'a visiblement pas connu le succès que Lully et Molière avaient escompté, puisque le roi n'a pas vraiment fait part de son contentement. Il est resté très neutre, n'applaudissant pas, ne réagissant quasiment pas. Lully était tellement désespéré que, d'après les dires de certains des témoins de l'époque, il aurait fini par se jeter sur son clavecin de façon à créer une animation un peu drôlatique pour provoquer au moins un sourire ou quelque chose. Il ne s'est pas passé grand chose, et c'est finalement lors de la deuxième représentation qui a eu lieu, je crois, à Paris, que cette fois-ci le roi a dit vraiment à Molière ce qu'il en pensait et tout le bien qu'il pensait de cette pièce. Peut-être qu'il lui a fallu un petit peu de temps pour s'habituer à la façon dont elle était menée et dont le rythme était assez soutenu finalement.
C'est à ce moment que nous quittons Alexandra Fleury, attachée culturelle, au milieu de ce château de Chambord si sublime, et David Mestri, qui se dirige maintenant vers Olivier Beaumont, qui est le claveciniste et le penseur de la musique, qui est en train d'écrire un livre sur Saint-Simon et la musique, avec le sujet du jour entre David et Olivier, et ce sera donc la danse et la guerre dans Musique en mémoire sur Espace 2.
Olivier Beaumont, vous qui êtes résident du château de Chambord et moi qui suis l'invité du château pour quelques heures, si nous y étions à l'époque de Louis XIV et de Saint-Simon,
nous devrions avoir appris à manier l'épée, mais aussi la danse. C'était une partie essentielle de l'éducation d'un gentilhomme au XVIIe siècle.
Oui, absolument. La danse, c'était plus que la danse. C'est-à-dire que pour un aristocrate, apprendre la danse, c'était apprendre à bien se tenir en société. De même qu'on apprenait à bien parler, qu'on apprenait à bien manier l'épée, on apprenait aussi à avoir un air aisé en société. Et il y a un traité de danse qui s'intitule Le maître à danser, de Pierre Rameau, qui n'a rien à voir avec Jean-Philippe Rameau, publié à Paris en 1725, où il y a des chapitres justement du style de la manière d'ôter son chapeau, de la manière d'entrer dans un salon. Donc on voit bien que c'est pas seulement comment apprendre les différents pas d'un menuet ou d'un branle-à-mené ou d'un passe-pied, mais c'est bien effectivement comment avoir un air aisé dans la société. Et Saint-Simon ne dit pas autre chose que ce que dit Pierre Rameau, curieusement, puisque lui qui a été un danseur, apparemment un bon danseur, puisqu'il a dansé toute sa vie, et puis il prend la décision à partir de 1708, je pense, de mémoire, d'arrêter la danse avec sa femme parce qu'il trouve qu'il est trop âgé, mais
il n'a pas 40 ans pourtant.
Voilà, pas 40 ans, et il dit quand même qu'il trouvait qu'à cet âge-là, il fallait qu'il arrête la danse, mais il sera contraint à plusieurs reprises de danser, d'une part parce que Louis XIV imposait aux gens, à la fin du règne, la cour vieillissant un peu, il imposait à des gens qui n'étaient plus en âge de danser, donc il était obligé de danser une ou deux fois. Et puis en Espagne aussi, l'ambassade en Espagne, où il était plus âgé, puisque c'était entre 1721 et 1722, où là, effectivement, le roi d'Espagne et sa femme, Elisabeth Farnèse, le contraignent à danser lors d'un bal, et il dit cette belle phrase: « Je m'en suis tiré comme j'ai pu ».
Ça veut dire donc que quand on est invité par un grand, qu'il y a de la musique, on ne peut pas rester assis sur son banc dans son coin, on peut être obligé à prendre une dame par la main. C'était des danses en couple, c'était des danses en...
Alors, il y avait plusieurs bals à la cour. Il y avait le grand bal du roi, réglé, le bal réglé du roi, qui était donc plus une sorte de cérémonial qu'un véritable divertissement. Parce que là, c'était extrêmement codifié, les différentes entrées, la personne qui menait le branle au départ, etc. Donc, c'était une chose très, très codifiée. Je vais vous lire maintenant un texte de Saint-Simon qui prouve à quel point c'était très organisé. Et puis, il y avait les bals de carnaval, bien sûr, du début d'année, qui étaient des bals plutôt soit dans le particulier, dans l'intimité des grands, ou alors éventuellement dans l'ordinaire de la cour, mais qui étaient des choses beaucoup plus informelles, avec des masques, des déguisements. C'était pas du tout là, c'était un pur divertissement, on peut dire, alors que le bal réglé à l'occasion des mariages était quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Donc je vais vous lire tout d'abord ce que dit Pierre Rameau justement d'un grand bal du roi. Alors il écrit ça à la mort de Louis XIV, mais il décrit bien ce bal comme étant le bal du temps du feu roi, même une période tôt dans le règne de Louis XIV, puisqu'il il pense non seulement au roi mais à la reine, alors que Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, est morte en 1683. Donc c'est un texte qui raconte au début du règne, mais en même temps le grand bal réglé chez le roi n'a pas changé. Voici ce que dit Pierre Rameau. Il faut savoir d'abord qu'il n'y a personne admis dans le cercle que les princes et princesses du sang, ensuite les ducs et pairs et les duchesses, et après les autres seigneurs et dames de la cour, chacun selon le rang qu'ils doivent occuper. Mais les dames sont assises sur le devant et les seigneurs aussi assis derrière les dames. Ainsi, chacun étant placé dans le même ordre, lorsque Sa Majesté souhaite de commencer, elle se lève et toute la cour en fait de même. Le roi se place à l'endroit de l'appartement où l'on doit commencer de danser, qui est du côté de l'orchestre. Du temps du feu roi, c'était la reine qui, avec Sa Majesté, figurait. Au défaut, c'était la première princesse du sang que Sa Majesté prenait et se plaçait les premiers, et chacun se venait placer, suivant derrière leur Majesté, à la file, chacun selon son rang. Donc on se rend bien compte que c'était une chose beaucoup plus une sorte de défilé de la cour, on pourrait dire, plutôt qu'un bal où on s'amusait. Et on a ça chez Saint-Simon plusieurs fois, notamment au mariage du duc de Chartres en 1692, donc un des grands amis de Saint-Simon qui va devenir le régent, où là aussi il dit, d'abord Saint-Simon dit, c'est la première fois que je dansais chez le roi, donc c'est le début de sa carrière, on pourrait dire, de danseur à la cour. Et il dit bien, par exemple, au moment du début de l'année de 1692, le dimanche gras, c'est Saint-Simon qui parle, il y eut grand bal réglé chez le roi, c'est-à-dire ouvert par un branle, suivant lequel chacun dansa après. Monseigneur le duc de Bourgogne y dansa pour la première fois et mena le branle avec mademoiselle. Ce fut aussi la première fois que je dansais chez le roi et menai mademoiselle de Sourche, fille du grand prévôt, qui dansait très bien. Tout le monde y fut fort magnifique. Alors là, on a des commentaires de Saint-Simon qui sont un peu, on pourrait dire, des commentaires presque officiels. C'est pas son genre habituellement, des commentaires qui pourraient se trouver dans le Mercure Galant de l'époque.
Qui est la gazette.
Qui est la gazette officielle, l'organe officiel du pouvoir. Mais Saint-Simon ne peut s'empêcher, comme on pourrait dire, de froisser les pages du Mercure et de raconter, bien sûr, des histoires qui seraient impossibles à raconter dans le Mercure. Il raconte notamment cette histoire assez étonnante d'un jeune danseur qui ne savait pas danser du tout et qui se montre très vantard et qui dit qu'il va danser magnifiquement. Donc le texte est très amusant de Saint-Simon, mais en dehors de l'anecdote, c'est aussi un texte qui révèle beaucoup de choses, je pense, socialement à la cour. Encore une fois, à la cour, on pouvait très bien ne pas savoir jouer d'un instrument, ne pas chanter, c'était pas du tout... Chacun était libre de faire ce qu'il voulait. En revanche, ne pas savoir danser à la cour, c'était un sujet d'opprobre immédiat.
Au temps de Louis XIV, ou bien est-ce que c'est dans d'autres cours européennes, dans des cours plus anciennes, il y avait aussi cette même obligation? C'était un point particulier sur lequel Louis XIV insistait?
Je pense que c'est une chose un peu générale dans les cours européennes, mais c'est particulièrement important chez Louis XIV, et ensuite dans les cours qui ont un peu imité Versailles à la suite, où la danse était vraiment quelque chose d'important. La danse, c'est le synonyme de la France, vraiment. C'est-à-dire que dès qu'un compositeur européen a écrit une danse, c'est toujours en référence à la France. La France, c'est un peu, ce sont les opéras-ballets, ce sont les ballets de cours avant, donc il y a une référence immédiate à la France, et je pense que c'est pas spécifique à Louis XIV, mais c'est un des signes distinctifs de ce règne, et c'est ce que j'écris dans mon livre. Je crois que savoir danser chez le roi, c'est savoir y vivre, tout simplement. Et donc voici ce pauvre fils de Montbron, voici ce que raconte Saint-Simon. « Je ne puis passer sous silence une aventure fort ridicule. C'était le fils de Montbron qui n'était pas fait pour danser chez le roi. On lui avait demandé s'il dansait bien, et il avait répondu avec confiance, qui donna envie de trouver qu'il dansait mal. On eut contentement. Dès la première révérence, il se déconcerta, plus de cadence dès les premiers pas. Il crut la rattraper et couvrir son défaut par des airs penchés et un haut port de bras. Ce ne fut qu'un ridicule de plus qui excita une risée qui en vint aux éclats et qui, malgré le respect de la présence du roi, qui avait peine à s'empêcher de rire, dégénéra enfin en véritable huée. Le lendemain, au lieu de s'enfuir ou de se taire, il s'excusa sur la présence du roi qui l'avait étourdi et promit merveille pour le bal qui devait suivre. Dès qu'au second bal, on le vit pris à danser, voilà les uns en pied, les plus reculés à l'escalade, et la huée si forte qu'elle fut poussée au battement de main. » Donc on a ici quelque chose que je trouve très intéressant. Alors bien sûr, ce jeune homme est un peu vantard, mais il est surtout complètement ignorant des usages versaillais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la portée sociologique de la chose. Ici, tout est dit, je crois, dans le fait que Saint-Simon écrit qu'il n'était pas fait pour danser chez le roi. Et ça, c'était, au regard de l'aristocratie, c'était comme une tare originelle, on pourrait dire. Et c'est pourquoi je dis dans mon livre que ceux qui ne savaient pas danser révélaient de cette façon-là qu'ils n'étaient pas bien nés. Vous allez voir où je veux en venir. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient indignes de paraître à la cour. Ils étaient un peu comme ce qu'on appelait les bâtards de ce spectacle puissamment réglé. Vous savez que Saint-Simon a toujours été en lutte contre les enfants légitimés, pour employer la formule correcte actuelle, qu'il a eu avec soit Mademoiselle de Lavallière, soit Madame de Montespan. Mais il y avait quelques
enfants du roi.
Exactement, les enfants du roi, donc qui étaient donc ce qu'on appelait les bâtards, et c'était un défaut de naissance absolument épouvantable à cette époque-là. C'était incroyable comme on considérait les enfants légitimés que Louis XIV a légitimés. Et donc on a, si vous voulez, cette sorte d'ostracisme absolument monstrueux vis-à-vis des enfants légitimés. Et on retrouve ça dans cette histoire-là, dans le sens que celui qui n'était pas fait pour danser chez le roi, c'était effectivement une tare de départ, et c'était impossible qu'il soit bien reçu à la cour.
Rappelez-moi, Olivier Beaumont, l'année de naissance du duc de Saint-Simon, Louis de Rouvray.
Saint-Simon est né en 1675 et il est mort en 1755.
Ça veut dire que lorsqu'il raconte, par exemple, son apparition à la cour en 1692, il a 17 ans.
Exactement.
Et donc, on parle de messeigneur, les ducs, etc., mais il faut imaginer une sorte de classe d'adolescents dansant, finalement, devant le roi, qui lui-même a 40 ans de plus.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est curieux de remarquer que la cour vieillit, dans le sens que la première partie du règne de Louis XIV, on a tous les amis de la jeunesse de Louis XIV, et puis toute cette série de deuils successifs au début du XVIIIe siècle, de monsieur d'avoir le frère du roi en 1701, puis ensuite, c'est une longue, longue série terrible, fils de Louis XIV, monseigneur en 1711, son petit-fils, sa petite-fille, donc le duc et la duchesse de Bourgogne en 1712, donc étaient les nouveaux dauphins, puisque l'autre dauphin, la génération précédente, était morte. Ensuite, les deux premiers enfants, les deux premiers arrière-petits-fils de Louis XIV, ce n'est que le troisième arrière-petit-fils, duc d'Anjou, qui va devenir le futur Louis XV, qui a pu échapper au médecin, d'ailleurs, puisque c'est Madame de Ventadour qui l'a protégé, qui l'a caché sous ses jupes quand il était tout gamin. Donc on a évité pour lui d'inénarrables saignées des médecins de la cour. Elle l'a mise au lit au chaud, lui a donné du lait, et il s'en est tiré comme ça très bien.
Saint-Simon parle aussi mal du métier de la médecine dans ses mémoires. Il y a des piques contre les médecins qui seraient donc, à vous entendre, Olivier Beaumont, coupables de cette hécatombe parmi les dauphins.
Non, je n'ai pas dit que c'était les coupables, c'est simplement qu'ils n'avaient visiblement pas les moyens du tout. C'était des médecins comme Molière quelques années plus tard. Donc juste, ils n'avaient pas les moyens d'éradiquer les maladies qu'il y a pu y avoir à la cour. Tout simplement. On a parlé d'empoisonnement de la part du régent, ce qui est évidemment totalement faux. Non, il y a une véritable épidémie de rougeole, je pense. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je suis absolument pas médecin. Mais c'est sûr qu'il y a eu visiblement des maladies comme ça contre lesquelles les médecins de l'époque ne faisaient pas d'autre chose que des lavements et des saignées, ce qui ne donnait pas grand-chose. Donc, effectivement, c'est juste que le petit Louis XV avait une constitution plus robuste. On lui a évité des traitements qui, de toute manière, ne servaient à rien, qui ne faisaient que l'affaiblir, et il s'en est tiré comme ça. Alors, je vais jouer maintenant deux pièces que j'aime beaucoup. Un branle de Lully. On a plusieurs recueils manuscrits, notamment copiés par Philidor l'aîné, qui était donc le bibliothécaire musical du roi André d'Anican Philidor. Et on a des pièces qui étaient visiblement faites pour être dansées chez le roi. Et on a plusieurs pièces de Lully, notamment ce branle que je vais jouer maintenant en sol mineur, qui est une pièce que j'aime beaucoup, qui est marquée juste avec un dessus et une basse, et que j'ai transformé, que je me suis amusé à faire un peu comme toutes proportions gardées, comme les transitions de Dangleberg qu'il a pu effectuer de certaines danses de Lully. Donc je joue ça au début, et puis ensuite un menuet pareillement également de Lully, qui cette fois est transcrit par Dangleberg, un menuet très connu qui a servi dans plusieurs choses, qui s'appelle Dans nos bois, et qu'on pouvait entendre à Versailles, soit pour les soupers du roi, soit même au coucher quelquefois, et évidemment dans les bals.
Sous vos doigts, Olivier de Beaumont, dans cette salle magnifique avec des tableaux de chasse du château de Chambord. Branle et menuet de Lully et la musique de clavecin pour danser. Est-ce qu'on dansait au son du clavecin à la cour telle que l'a décrit le duc de Saint-Simon ?
Ça, c'est une bonne question, dans le sens qu'il faut distinguer un tout petit peu la musique à danser, qui est réellement uniquement pour danser, et la musique qui devenait, on pourrait dire, plus savante, en tout cas sur un plan instrumental, musical, et qui était ensuite transfigurée au clavecin. Je dis ça tout simplement parce que le menuet que je viens de jouer de Lully, transcrit par d'Anglebert, il y a une indication lentement. Alors évidemment, ça surprend tout le monde parce qu'un menuet, c'est toujours une pièce rapide, notamment les danseurs sont obligés d'avoir un menuet très rapide pour pouvoir danser. Et c'est juste pour signaler qu'il y a eu forcément des écarts de tempi entre une pièce qui était uniquement à danser, qui était d'ailleurs d'un matériau très simple, un dessus et une basse, pratiquement pas d'ornementation, et puis les pièces chez d'Anglebert qui deviennent très chargées avec des arpèges, beaucoup d'ornements, qui interdit tout simplement le même tempo. Et on a une phrase de Michel de Saint-Lambert qui a fait un très beau traité de clavecin au début du XVIIIe, avant l'art de toucher le clavecin de François Couperin, qui est un peu la bible des clavecinistes pour le clavecin français. Et Saint-Lambert dit, je cite de mémoire, « Les menuets à danser se prennent ordinairement très rapidement, mais il y a des menuets de clavecin qu'on prend plus lentement. » Donc, si vous voulez, simplement parce que la musique est plus dense, le matériau sonore est plus riche, plus d'ornementation, beaucoup d'harmonie, j'ai envie de dire que là, il faut essayer de trahir la lettre pour retrouver l'esprit. C'est-à-dire que la lettre, ce serait d'essayer de jouer ça au tempi de la danse, où c'est juste absolument impossible parce qu'on entend plus d'ornementation, on a une sorte de cacophonie, tout simplement. Et il suffit de regarder les pièces véritablement qui étaient à danser, qui sont beaucoup plus simples de facture. Et donc, trahir la lettre dans le sens qu'on n'a pas exactement le tempo de la danse, mais on essaie de retrouver l'esprit par l'articulation, par le caractère, ou si c'est un tout petit peu plus lent, on arrive quand même à essayer de donner l'allure d'un menuet.
Mais pour les danses de la cour, telles que vous nous les présentez, où on était obligé de paraître, c'était un orchestre qui faisait danser ou c'était un violoniste, joueur de pochette, je ne sais pas.
Non, là c'était vraiment les musiciens du roi, là c'était les musiciens de la chambre qui s'occupaient de ça. Vous savez, les trois grands départements de la musique à Versailles, c'était la chapelle, bien sûr les musiciens de la chapelle, les musiciens de la chambre, donc pour la musique profane, et les musiciens d'écurie, la grande écurie en l'occurrence, donc pour tous les défilés, l'aspect militaire et tout ça, plus la maison militaire d'ailleurs qui avait des musiciens. Donc si vous voulez, la musique de la chambre était réquisitionnée toujours dès qu'il y avait des balles à la cour, dès qu'il y avait des soirées d'appartement dont on a parlé hier, on avait effectivement les musiciens de la cour. Donc c'était un ensemble à géométrie variable, dans le sens que c'était quand le roi le voulait, mais évidemment, a fortiori, les grands bals réglés chez le roi, qui étaient des sortes de cérémonies solennelles pour des mariages, évidemment, il y avait la musique du roi, de la chambre au grand complet. Les musiques de carnaval, tout dépendait si c'était effectivement chez le roi à Versailles ou à Marly, d'ailleurs, il y avait aussi des bals costumés, des bals en masque à Marly, ou si c'était des bals simplement privés, ou là, effectivement, si c'était chez un prince dans un appartement à Versailles, forcément, l'effectif instrumental était plus réduit. Mais globalement, il y avait quand même, les musiques à danser étaient plutôt avec les violons, les hautbois, tout un continuo, etc.
La musique de la chambre au grand complet, c'est combien de musiciens ?
C'est très difficile de dire parce que, suivant les états de la France, on a quelquefois des charges qui sont occupées par certains mais qui en occupent d'autres. C'est assez difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que les effectifs qu'on a ne témoignent pas de la réalité.
Donc à la chambre, on a le claveciniste que vous représentez un peu ici au château de Chambord, Olivier Beaumont. On a aussi des joueurs de viol qu'on imagine beaucoup au temps de Louis XIV. Il y a de grands noms de la viol. Est-ce que la viol est un instrument à faire danser ?
Tout instrument est à faire danser si, à partir du moment où on fait effectivement une pièce de danse. Donc on peut tout à fait imaginer que n'importe quel instrument, que ce soit la flûte à bec, le hautbois, évidemment le clavecin, même l'orgue, puisquelquefois on a des rites de danse dans les pièces d'orgue qui sont censées être, enfin qui sont jouées au sein de la liturgie, on a quelquefois des rites de danse, comme dans l'offertoire des paroisses de François Couperin, on a un rite de gigue à la française en plein milieu, par exemple. Donc tout instrument peut faire danser parce qu'il a la possibilité rythmique de faire danser les gens. Ensuite, encore une fois, il y a donc les musiques qui étaient vraiment destinées uniquement à la danse, et puis celles qui devenaient un peu plus savantes au sein de la suite instrumentale. C'est le cas de Marin Marais. On a ces 5 livres extraordinaires pour la viol qui sont un peu l'équivalent pour les violistes des 4 livres de clavecin de François Couperin. Et là, bien sûr, on a des extraordinaires. On entend les cloches de Chambord, c'est magnifique. Hein, les cloches de la petite église à côté qui date du temps de Louis XIV d'ailleurs. Voilà, on entendra ce bruit. On a même un angélus magnifique à 7h du soir et à 8h du matin, que vous avez peut-être entendu ce matin, David. Donc voilà, donc on a dans ces pièces de viol des danses extraordinaires qui sont encore une fois une sorte de traduction savante, on pourrait dire, d'une chorégraphie existante au départ.
publié dans le troisième livre des pièces de viol de Marin Marais en 1711. Ce grand ballet, joué ici par Sophie Vatillon, regrettée violiste, et avec la basse de Frédéric Reumann, Xavier Diaz, Evangeline Mascardi et Luca Guglielmi, la musique de Marin Marais, qui a peut-être connu Saint-Simon. Est-ce qu'il cite des musiciens de l'entourage du roi que l'on connaît aujourd'hui, le duc de Saint-Simon, Olivier Beaumont?
Alors c'est la grande question. Hélas, on aimerait en tant que claveciniste qu'il cite Couperin, mais on piste Couperin tout le temps. Les musiciens qu'il cite, c'est Lully, évidemment, qui était une figure emblématique. Il cite aussi Denière, qui était un musicien proche de Louis XIII, donc là dans un côté plus historique des mémoires, qui était un compositeur d'air de cour. Il le cite plusieurs fois. Il cite Delalande, comme le grand génie versaillais, parce que la carrière de Lully s'est faite un peu avant Versailles, puisque la cour s'installe en 82, lui meurt en 87. Alors, je parle de 1682 et 1687. Et donc Delalande, en revanche, après a accumulé à peu près toutes les charges à la chapelle royale et à la chambre, donc est devenu le grand musicien versaillais. Il cite aussi Destouches, qui a composé l'opéra Issé, très belle pastorale héroïque, pour le mariage du duc de Bourgogne. Et là, c'est intéressant parce qu'il le cite en disant que l'opéra était fort beau, alors qu'il donne assez rarement son avis sur une œuvre, Saint-Simon. Mais il faut dire qu'ils ont été ensemble au siège de Namur, apparemment, en 1692, de mémoire.
L'année du mariage du duc de Chartres qui deviendra régent, dont vous nous avez parlé.
Voilà. Donc, ils ont été ensemble aux mousquetaires. Saint-Simon était aux mousquetaires gris. André Cardinal Destouches était aux mousquetaires noirs. Et donc, ils ont participé ensemble au siège de Namur. Ils n'étaient pas les seuls, évidemment, en 1692. Mais peut-être faut-il voir là simplement une sorte de petit signe par-delà les années de Saint-Simon à quelqu'un qu'il aurait pu éventuellement rencontrer lors de cette campagne militaire. Donc voilà. Pierre Denière, Lully, Delalande, Destouches. Il cite aussi, mais pas pour la même raison, il cite Mademoiselle de Ménétou, qui était une très bonne compositrice, enfant prodige. On a une pièce admirable de Couperin qui s'appelle La Ménétou. Saint-Simon la cite d'une façon, pas du tout comme parce qu'elle était musicienne, parce que c'était la fille du duc et de la duchesse de La Ferté. Et alors il dit une chose terrible sur elle, alors que c'est amusant, Mademoiselle de Ménétou, tous les clavecinistes trouvent cette jeune femme adorable. Il y a des belles gravures qui la figurent au clavecin. La pièce de Couperin est marquée tendrement, gracieusement, sans lenteur. Donc ce sont des pièces extrêmement jolies. On imagine quelqu'un d'exquis. Et Saint-Simon, comme toujours, dit deux phrases assez terrible sur la mer, d'une part, en disant que la mer était une égueulée épouvantable. Donc une égueulée, ça veut dire quelqu'un qui jurait comme un charretier. Et il dit cette phrase, les auditeurs me pardonneront la crudité du propos, mais il dit à propos de la Mademoiselle de Ménétou qu'elle avait beaucoup rôti le ballet avant son mariage, qui est particulièrement élégant, et qu'elle commençait à pousser en graines. Donc on a, vous savez, chez Saint-Simon, on a un langage quelquefois extrêmement cru.
Il faut le décoder, elle a rôti le ballet.
Oui, c'est ça, qu'elle avait beaucoup rôti le ballet avant son mariage. Donc j'imagine que ça veut dire qu'elle avait eu des expériences amoureuses et sexuelles bien avant son mariage et qu'elle commençait à pousser en graines. Donc on a chez Saint-Simon un art de la formule, mais extraordinairement cru quelquefois. On n'a pas seulement des choses très élégantes, un style admirable, on a aussi dans un style admirable, mais quelquefois avec une crudité qu'on peut difficilement rapporter partout.
À la cour de France, dans cette musique dansée, il y a aussi, pour le prochain chapitre de cet entretien autour de Saint-Simon, Olivier Beaumont, le carnaval, qu'on imagine beaucoup plutôt en Italie. C'est tout de même un passage important de la vie de la cour française que ce temps de carnaval avec des danses particulières.
C'était extrêmement important à la cour, les bals du début de l'année, en fait, du carnaval, tout simplement parce que je pense que ça permettait une licence qui n'était pas permise dans les autres moments de la cour. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de liberté octroyée ici qui était assez incroyable. Et Saint-Simon en parle beaucoup, et c'est presque en chaque début d'année des mémoires, c'est comme une sorte d'incipit, on pourrait dire, où il dit il y a eu force bal cette année à la cour, on a eu beaucoup de bals à Marly cette année, etc. Enfin, il y a une chose de, comme une espèce de refrain ou d'incipit, je pense, de chaque long chapitre sur les années qui se succèdent. Alors là aussi, on a des aventures souvent très amusantes. Mais on en a une aussi qui est assez noire, c'est-à-dire que Saint-Simon, comme un peu d'ailleurs François Couperin dans Les Folies Françaises, j'y reviendrai tout à l'heure, il a su voir dans ses fêtes, dans ses masques, dans ses déguisements, à la fois l'aspect très festif, très amusant, mais l'aspect tragique aussi. Et il y a une chose assez terrible qu'il raconte, c'est la mort de Monsieur le Duc, donc qui était le fils de Monsieur le Prince, donc petit-fils du grand Condé, et qui meurt en pleine nuit de carnaval. Et je trouve le texte terrible parce qu'il donne une idée assez impressionnante de ce que pouvait être le carnaval qui d'un seul coup se froissait, on pourrait dire, enfin devenait complètement terrible. Donc c'est en 1710, et voici ce qu'il dit sur la mort de Monsieur le Duc. Monsieur le Duc était attaqué d'un mal bizarre qui lui causait quelquefois des accidents équivoques d'épilepsie et d'apoplexie, qui durait peu, et qu'il cachait avec tant de soin qu'il chassa un de ses gens pour en avoir parlé à d'autres de ses domestiques. Il avait depuis quelque temps un mal de tête continuel, souvent violent. Madame la princesse, pour qui il avait quelques considérations et quelques amitiés, le pressait de penser à Dieu et à sa santé. Il lui promit l'un et l'autre, mais après le carnaval qu'il voulait donner au plaisir, il fit venir Madame la Duchesse à Paris, le lundi gras, pour les sollicitations et les audiences, et en attendant pour lui donner deux soupers et à beaucoup de dames, et les mener court le bal toute la nuit du lundi et du mardi gras. Et là ensuite, dès le lundi soir, Saint-Simon raconte l'épisode en disant qu'il a commencé à se sentir mal, monsieur le duc a commencé à se sentir mal. On le jeta au lit, médecins et prêtres mandés en diligence furent inutilement leurs fonctions. Il ne donna aucun autre signe de vie que d'horribles grimaces et mourut de la sorte sur les 4 heures du matin du mardi gras. Madame la Duchesse était là aussi au milieu des parures et des habits en masque et de tout ce monde convié, éperdu de surprise et de spectacle. Alors, mourir avec des invités chez soi, c'est déjà curieux, mais mourir en faisant des grimaces, et en plus au milieu de tous ces masques, c'est presque une scène de Fellini. Enfin, il y a quelque chose que je trouve digne d'un héros d'opéra ou de film de Fellini, encore une fois. Donc, c'est là où Saint-Simon est unique et singulier dans ce qu'il dit sur la musique et sur la danse, c'est qu'on a des commentaires objectifs, et puis d'un seul coup, on a des choses complètement personnelles, extraordinaires, qui donnent un tableau de la cour qu'on n'a nulle part ailleurs.
La musique du dernier divertissement du Carnaval de Venise, opéra ballet d'André Campra, dans l'interprétation d'Hervé Niquet à la tête du concert spirituel, en illustration donc à ces masques que décrivait Saint-Simon à l'occasion de la mort de Monsieur le Duc, donc petit-fils du grand Condé. Vous connaissez ces personnages comme si vous les aviez côtoyés, Olivier Beaumont, donc c'est un des personnages importants de la cour, le grand Condé, qui est...
Premier prince du sang, donc c'est effectivement un des personnages les plus importants en dehors des enfants de la famille royale immédiate. C'est évidemment, je rappelle, le premier prince du sang. Donc les Condés ont été l'une des familles très 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 importantes à la cour. Donc vous savez, il y a, je pense, quelque chose comme 7400 personnages chez Saint-Simon. La difficulté est de ne pas faire d'erreur parce que certains ont plusieurs fois le même nom, ils changent de nom. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est le duc de Chartres. Il est duc de Chartres jusqu'à la mort de son père qui était duc d'Orléans. Il devient duc d'Orléans en 1701, puis ensuite régent, donc voilà, là c'est très simple en ce qui concerne le régent, mais il y a des personnages, effectivement, la difficulté c'est d'être sûr de ne pas se tromper, le nom de famille, il y a au moins dans l'index des noms, dans la Pléiade, vous avez quelquefois 17 prénoms pour le même nom, donc il faut faire très très attention de ne pas se tromper de personnage.
Donc le grand Condé dont vous nous parliez, Olivier Beaumont, donc c'est le premier prince du sang, ça veut dire que c'est un personnage très important au sein de la cour, très proche de Louis XIV.
Oui, c'était la branche donc des Bourbons-Condés. Donc effectivement, lui a été très important, a eu surtout une attitude très très ambiguë. Et Louis XIV, au moment de la Fronde, au moment où le jeune roi essayait de s'affirmer comme monarque, et donc il y a toujours eu, c'est eux qui ont été notamment les propriétaires du château de Chantilly, et où il y a eu des fêtes somptueuses, à la fois ensuite par Monsieur le Prince et ensuite par le Monsieur le Duc, donc qui meurt tragiquement avec ses devant ses masques chez lui.
On parle beaucoup de danse, de fêtes, de carnaval, Olivier Beaumont, mais la vie militaire a complètement régné aussi sur la cour, sur le règne de Louis XIV, les campagnes. Vous avez parlé du duc de Saint-Simon mousquetaire, c'est-à-dire militaire finalement.
Absolument. Donc effectivement, les mémoires sont émaillées un peu de récits militaires. Dans le début des mémoires, c'est quand lui-même y participe, bien sûr, notamment le siège de Namur en 1692, puis d'autres ensuite, Nervinden, enfin plusieurs. Et puis ensuite, les batailles qu'il évoque, évidemment, lui n'en fait plus partie puisqu'il arrête la carrière militaire en 1702, et on a cette belle phrase de Louis XIV qui dit « Encore un homme qui nous quitte », puisque c'est le moment où le royaume commence à aller moins bien. C'est le moment après 1700 où Louis XIV accepte le testament du roi d'Espagne qui demande que sur le petit-fils, le deuxième petit-fils de Louis XIV qui devienne roi d'Espagne, donc le duc d'Anjou qui va devenir le Philippe V espagnol, c'est encore la branche actuelle d'ailleurs des Bourbons d'Espagne, et ça place Louis XIV et la France face à une coalition européenne qui refusait cette alliance entre l'Espagne et la France. Donc on a cette très longue guerre de la succession d'Espagne. Je ne suis absolument pas du tout un spécialiste des guerres de Louis XIV, évidemment, mais simplement Saint-Simon évoque beaucoup ce genre de choses, et il évoque notamment la musique militaire. Alors c'est intéressant parce qu'il parle bien sûr de trompettes, les trompettes qui étant les instruments mais qui étaient aussi des personnages. Le trompette à l'armée, c'était celui qui allait porter les nouvelles. C'est effectivement la sous-mantisse qui jouait de la trompette, mais dès qu'on avait une nouvelle à faire passer à l'ennemi ou un message, on envoyait un trompette par le annoncer, voilà, le prince un tel veut dire telle chose au prince un tel de l'autre côté de la du pré, si je puis dire. Donc les trompettes portaient les nouvelles. On a évidemment tambour, timbale, trompette au bois. Et alors les timbales, c'est intéressant parce que les timbales étaient un peu le signal, celui qu'on avait été victorieux. Les prises de timbales, si on rentrait chez soi avec des timbales, c'est qu'on avait vaincu l'ennemi. C'est-à-dire que si on prenait les timbales, non seulement c'était des choses précieuses, donc ça avait une valeur marchande effective, mais c'était aussi le signe qu'on avait pris le pouvoir sur l'ennemi.
Ça vole presque comme les bannières alors.
Exactement, c'est ça. On prenait les drapeaux et les timbales, exactement. Alors, on a une histoire assez amusante avec le duc de Vendôme, qui est un peu plus tardif dans le règne. Le duc de Vendôme, c'était un enfant légitimé. C'était l'arrière-petit-fils de Henri IV et de Gabriel d'Estrée. Et donc, qui avait une vie un peu apparemment débauchée à la cour, qui avait à la fois ses admirateurs et ses contradicteurs, comme ce qui était le cas, bien sûr, de Saint-Simon. Mais alors, on raconte une histoire assez amusante à propos d'une musique militaire qu'on appelle le bout de sel, qui est une musique qui est destinée à dire aux gens, dire aux cavaliers qui doivent monter sur leur cheval. Et Saint-Simon raconte un moment où le duc de Vendôme n'arrive pas à se réveiller. Donc, je vais vous lire cela. Voilà, donc l'anecdote racontée par Saint-Simon se place à l'année 1707, lors de la campagne de Flandre. Alors l'électeur, je cite Saint-Simon, « L'électeur alla lui-même forcer les portes, éveiller Vendôme et lui dire que le péril de son retardement. Vendôme l'écouta en bâillant et pour toute réponse lui dit que cela était le mieux du monde, mais qu'il fallait qu'il dormît encore 2 heures et tout de suite se tourna de l'autre côté. Cependant, les avis redoublant de toutes parts de l'arrivée imminente des ennemis sur l'armée, puis Ségur prit sur soi de faire sonner bout de sel, d'étendre et charger, puis avertit le duc de Vendôme, qui persista à ne vouloir rien croire, mais qui, sachant l'armée prête à marcher, s'habilla enfin et monta à cheval comme elle était déjà ébranlée. » Donc je vais jouer maintenant un bout de sel de Jean-François d'Andrieux. Vous savez, la guerre était, la guerre terrible et véritable et tragique, et puis on avait les guerres en musique, qui étaient une sorte de traduction artistique, on peut dire, de tout ce qui se passait. Et on sait depuis longtemps, depuis Jeanquin, que les batailles, les guerres ont toujours été l'objet d'un style très important en musique, notamment chez Monteverdi, par exemple, avec le fameux style concitato qu'on a dans le combat de Tancrède et Clorinde, où il y a des figurations musicales extrêmement précises qui donnent le bruit des épées, etc. Donc on a les caractères de la guerre de d'Andrieux, qui était organiste du roi d'ailleurs à la Chapelle Royale, qui est publié dans une première version pour orchestre, puis aussi pour le clavecin. Et donc là, on a des musiques de guerre. Donc je vais jouer le bout de sel, qui est une pièce visiblement traduite directement de la trompette, qu'on joue au clavecin en do majeur. Ensuite, une première marche, donc qui était censée lancer les armées se mettre en branle. C'est un divertissement très long, mais il y a des plaintes que je trouve assez jolies, qui sont des plaintes donc des blessés, bien sûr, forcément des ennemis et pas de soi-même. Et on a des séries de renversements de septième diminuée, donc qui sont des accords très expressifs, par exemple do dièse, mi, sol, si bémol, ou si bécard, ré, fa, la bémol, des choses comme ça. Donc des chromatismes avec des septièmes diminuées comme ça, qui sont très expressives. Et puis à la fin, on a cette chose extrêmement bizarre, on a une gamme qui monte et qui descend simplement en do majeur, qui fait tout le clavier comme une espèce de, je sais pas, de dernier soupir, ou chose comme ça, qui est un peu curieuse chez d'Andrieux. Mais on a là, si vous voulez, une sorte de traduction un peu amusante. C'est une sorte de guerre en dentelle pour décrire des événements qui n'avaient rien d'amusant.
Donc le bout de sel tout d'abord.
sous vos doigts et en exclusivité, Olivier Beaumont, dans cette salle du château de Chambord où nous sommes toute cette semaine à la suite de Saint-Simon, qui n'y a pas vraiment résidé, mais qui en parle très brièvement dans ses mémoires. C'était cette musique descriptive, les caractères de la guerre de Jean-François d'Andrieux, et notamment ses plaintes finales très dissonantes. On a aussi, dans les documents d'André Philidor, l'aîné, dont vous nous parliez tout à l'heure, les musiques d'un départ en campagne officielle, donc c'est des musiques qui sonnaient pour différents mouvements de l'armée, la marche générale de la garde française et puis d'autres pièces ici interprétées par la Symphonie du Marais du Goren. Marche, chasse et fête de Louis XV, réunie en manuscrit par André Philidor, l'aîné, qui était bibliothécaire, je crois, de la musique du roi, de la Grande Écurie en particulier.
Bibliothécaire musical du roi, il avait une charge de musicien, effectivement, à la Grande Écurie, mais il était également bibliothécaire, donc c'est grâce à lui qu'on a, il a copié lui-même, ou a fait copier sous sa direction, un nombre incalculable de musique, dont, dans certains cas, on a même une seule source, qui sont celles des volumes de Philidor.
Donc ici, des musiques de signal, on pourrait dire, qu'on entendait sur les batailles. Puis il y a aussi les descriptions des batailles, comme celle de d'Andrieux qu'on a entendu tout à l'heure. Et même François Couperin s'y est prêté.
Exactement. On a cette belle pièce chez Couperin, qui est l'une des toutes premières sonates en trio qu'il ait composée, qui s'appelle la Steinkirche, donc en référence à la bataille de Steinkirche au tout début des années 90, 1690. Et là aussi, on a une chose intéressante, on a ce qu'on appelle un bruit de guerre. Alors moi, depuis que je joue cette pièce, j'ai toujours pensé qu'un bruit de guerre, c'était une expression musicale, simplement, de la part de Couperin, parce qu'on a ça aussi dans une de ses pièces de clavecin qui s'appelle la Triomphante. Mais en fait, le bruit de guerre, c'était une chose très précise, c'est qu'on faisait sonner le bruit de guerre ou on ne le faisait pas sonner. Le bruit de guerre était fait, donc on faisait sonner trompette, hautbois, tambour et timbales. Et c'était à ce moment-là pour intimider l'ennemi, pour faire croire qu'on était plus nombreux qu'on était. Hein, ou au contraire, on pouvait faire exprès de ne pas faire sonner le bruit de guerre pour prendre les ennemis par surprise. Donc le bruit de guerre, c'est une expression en campagne militaire extrêmement précise qui est réemployée par les musiciens, mais ce n'est pas une expression des musiciens au départ. Et ça, je l'ai appris grâce à Saint-Simon.
Le cadre est prestigieux. Nous vivons à Chambord toute cette semaine dans Musique en mémoire avec Olivier Beaumont, avec David Mestré bien sûr, à feuilleter le livre qui vient de paraître d'Olivier Beaumont à l'Opéra Monsieur, la musique dans les mémoires de Saint-Simon, collection L'Infini, chez Gallimard. Et puis ensemble, nous remercions Gérald Yestan pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production. Musique en mémoire, proposition de Jolie Grimaud. Vous écoutez Espace 2.